aussi intéressant que varié. Au Peuple d'Orsay, à l'Abraham Martin, au Centre de yoga de Québec, chez Futon, etc., au Théâtre Périscope et au Théâtre de la Bordée. Voyez tous les détails à ckrl.qc.ca.
Beauport, Charlebourg,
la Cité.
Le Carrefour de Québec parle de vous.
Les rivières.
C'est votre portail sur l'actualité locale et communautaire.
Dis-moi.
Un média citoyen qui diffuse vos opinions et vos événements. C'est votre espace pour rester à l'affût des grands débats qui vous concernent. Actif et impliqué, le Carrefour informe et rassemble les gens d'ici.
Ne manquez pas à tous les lundis, 8h45, la chronique de Marie-Claude Boileau, rédactrice en chef du Carrefour de Québec, dans l'émission Avant 9h, tout est possible.
Le Carrefour de Québec, c'est l'hebdomadaire qui vous appartient.
Les rivières.
Consultez le Carrefour de Québec en ligne au carrefourdequebec.com.
Cultive tes couleurs.
Bonjour à tous, ici Guillaume Lafleur en direct de CKRL. Voici l'émission 7e ciel, une émission consacrée au cinéma. Nous commençons l'année aujourd'hui même, première émission de l'année. Alors de quoi on va parler aujourd'hui? Ben, premièrement, peut-être pourquoi pas faire un bilan 2010. Est-ce que c'est pas un peu ambitieux ça pour commencer l'année? Hein? On voit les choses en grand. Un bilan 2010, comment on peut faire ça? Ben, il y a plusieurs manières de le faire. Je proposerai de donner un tableau peut-être de l'évolution de l'exploitation du cinéma au cours de l'année. On est dans une période assez floue, assez conflictuelle à plusieurs égards entre les changements de support, la domination de plus en plus évidente du numérique, par exemple, la place accordée aux petites salles de répertoire, etc. C'est un enjeu qui anime, disons, une émission comme Au 7e ciel qui va aborder des films qui sont un peu à part ou en dehors des sentiers battus. Donc, on va essayer de voir ça de manière plus claire et aussi peut-être dans la deuxième partie de la première demi-heure, faire un portrait plus classique, disons, sans faire un top 10 de l'année, ce que s'amuse à faire un peu toutes les revues, un peu tous les blogs aussi sur Internet, le choix des meilleurs films selon des critiques d'un peu partout. Il y a des films qui sont assez consensuels qu'on va retrouver autant nommés dans les revues Sight & Sound, 24 images ou un cahier du cinéma, ou même dans séquences ou des revues aussi un peu plus consensuelles, que sais-je, American Cinematographer, etc. Il y a des films américains qui font l'unanimité cette année, mais évidemment on ne parlera pas simplement de ça. Il y a des films thaïlandais aussi qui font, au moins un film thaïlandais qui fait l'unanimité cette année, dont on pourrait un peu parler. Voilà, ça c'est pour la première demi-heure, un bilan de 2010, et puis peut-être aussi une perspective pour ce qui nous attend dans l'année qui vient. Ensuite, je m'attarderai un peu plus sur un film qui a fait un peu l'émoi et l'emballement de la critique en cette fin d'année, qui était Black Swan, et qui est Black Swan, en fait, toujours à l'affiche, de Darren Aronofsky, avec entre autres Natalie Portman et Vincent Cassel. C'est un film qui trouve sa place dans le spectre hollywoodien tel qu'on le connaît aujourd'hui, dont je parlais à l'instant, mais qui a aussi sa place dans le cinéma d'auteur. Donc Aronofsky se situe un peu sur cette mince frange entre le cinéma d'exploitation, le cinéma de masse, le cinéma industriel. En fait, c'est un film tout à fait au cœur de l'industrie que Black Swan, et aussi témoigne ou exprime une vision singulière, une vision d'auteur. Bon, on va voir jusqu'à quel point Aronofsky négocie ça dans son dernier film. Je vais parler un peu de Black Swan, mais je parlerai aussi de manière plus détaillée peut-être de l'aspect singulier de la... du parcours d'Aronofsky depuis les années 90 dans le paysage de la cinématographie américaine, comment son travail s'est déplacé de cinéaste indépendant à cinéaste au cœur de l'exploitation cinématographique. Et dans la dernière demi-heure, ben, ça va être vraiment un plaisir et un peu un contraste par rapport à ce dont j'aurais parlé un peu avant, dans la mesure où j'aurais plutôt parlé du cinéma contemporain en général et aussi en me concentrant sur la figure d'Aronofsky. On va parler de Claude Jutras. Pourquoi parler de Claude Jutras aujourd'hui? Il y a une actualité Claude Jutras. Claude Jutras, comme vous le savez, est un des cinéastes majeurs québécois des années 50 aux années 70-80. C'est un peu le cinéaste qui a donné une impulsion particulière au cinéma de fiction qui va se développer au moins au courant des années 60. Donc, il y a cet intérêt-là particulier à Jutras sur lequel il valait la peine de revenir. Ça fait 25 ans que Jutras est mort et la Cinémathèque québécoise propose un programme de films qui souligne évidemment la singularité de son parcours, puis les moments forts et les moments peut-être plus houleux, plus problématiques de son travail de cinéaste. C'était aussi l'occasion pour le conservateur programmateur de la Cinémathèque, Fabrice Montal, de proposer quelques films qui sont particulièrement méconnus et qui méritent d'être découverts ou alors qui ont tout simplement jamais été vus ou pratiquement jamais été présentés. Donc, les deux programmes que j'ai pu voir à la Cinémathèque québécoise cette semaine, je vais y revenir avec un peu plus d'attention, et ce sont des films justement qui ne sont pas dans le lot des œuvres célèbres ou célébrées de Jutras. Donc ce sera sans doute intéressant, intriguant de dire quelques mots là-dessus. Voilà le programme pour aujourd'hui.
Thank you.
Oui, Marc Ducré, qu'on vient d'entendre, un guitariste français, tiré d'un album qui s'appelle Qui parle? Bonne question, qui est davantage peut-être mise à profit dans une autre pièce de l'album, un album qui date de 2003, qui est assez radical, qui permet de sonner les matines de ce début d'année de manière tout à fait tonique, si je puis dire. On va donc parler un peu, je vais parler un peu de l'état des lieux du cinéma, un bilan 2010. Quelle ambition, vous me direz, vous avez pas tort, et on va essayer de pas trop s'étendre là-dessus, cibler un peu le propos. En 2010, en fait, peut-être que la place accordée au numérique a pris de plus en plus d'importance, d'une certaine façon. C'était une année qui a eu ses francs succès, disons, qui a connu ses francs succès dans la mesure où des films, entre autres, diffusés, là on parle de cinéma éditorial, de cinéma d'exploitation, des films diffusés comme en 3D, en fait, en trois dimensions, dans les salles commerciales, ont permis d'une certaine manière de gonfler les ventes à l'entrée, les ventes au guichet, et de faire un peu place nette vis-à-vis d'un cinéma un peu plus bidimensionnel, peut-être un peu plus attendu sur le plan de la technique. De plus en plus des films qui même alors qu'ils avaient été tournés, se sont retrouvés à être présentés en trois dimensions au cours de l'année. Évidemment, les films peut-être majeurs qui ont souligné l'apport singulier du 3D cette année sont Alice au pays des merveilles de Tim Burton ainsi qu'Avatar de James Cameron, en particulier Avatar de Cameron qui est arrivé un peu avant le film de Burton et qui pour ce dernier implique, disons, un nombre assez appréciable de séquences trois dimensions et aussi tout un travail technologique en amont pour amener le cinéma tridimensionnel à un niveau presque parfait. Parce qu'il faut avoir en tête que presque parfait au sens où qu'il ne correspond pas au standard qu'on avait eu avant. Il faut avoir en tête que le cinéma en 3D date pas de la semaine dernière. Au contraire, c'est le retour d'un spectre qui hante le cinéma depuis au moins les années 50 et qui avait trouvé à se justifier à l'époque le 3D des années 50 par la venue évidemment de la télévision et la nécessité pour le cinéma de se resituer. Je parle toujours du cinéma industriel parce qu'on parle souvent du cinéma d'auteur et c'est dans l'émission, mais le cinéma industriel a dû se resituer par rapport à la venue de la télévision et sa prépondérance dans les choix des spectateurs qui devenaient donc des téléspectateurs, donc des spectateurs à distance de ce qu'on leur présente. Hein. La télévision est un outil de diffusion entièrement, tandis que le cinéma est aussi un événement, disons, une projection qui a lieu dans un lieu et un espace-temps précis et pas ailleurs. Donc on ne voit pas le même film en même temps et dans les mêmes conditions partout dans le monde, dans une partie du monde au cours des années 50, comme ça peut être le cas aujourd'hui, disons, puisqu'il y a de plus en plus de diffusion de films qui se font par satellite. Donc, le cinéma 3D à l'époque, dans les années 50, utilisait disons, quelques séquences matrices, centrales, qui à la fois illustraient la singularité de la mise en scène d'un cinéaste, par exemple Hitchcock dans Dial M for Murder va utiliser au moins 3-4 dans 3-4 séquences la technologie 3D. Souvent, c'est pour faire apparaître des objets qui sortent de l'écran. Par exemple, une paire de ciseaux ou un téléphone, des objets qui ont une valeur dramatique précise et qui sont finalement soulignés par l'effet 3D. Donc, lorsque le téléphone sonne, dans le film d'Hitchcock, c'est un élément dramatique assez précis parce qu'il se trouve que le film, justement, se passe dans un seul lieu, pratiquement, et il y a un crime qui a lieu dans cet espace, cet appartement, et au moment où a lieu le crime, le téléphone sonne, donc ça change évidemment la dynamique dramatique qui est mise en place et la tension dramatique qui est concentrée sur le meurtre. On se demande qui appelle à ce moment-là, et ça change si on veut la focalisation du spectateur sur une partie de l'intrigue, donc son regard se déplace, et ce déplacement du regard par la caméra, par le cinéaste et pour le spectateur, et renforcé par l'effet du 3D, puisque les spectateurs dans la salle peuvent très bien mettre leurs lunettes et voir tout à coup, en surimpression de l'écran, un téléphone qui sonne. C'est un exemple. Donc il y avait cette idée, par, entre autres chez Hitchcock, qui est peut-être l'exemple le plus faramineux qui s'est rendu jusqu'à nous. C'est un film qui est encore extrêmement agréable à regarder, avec Grace Kelly, entre autres. C'était un peu un truc, une manière de garder les spectateurs attentifs à ce qui se déroulait dans l'écran de cinéma, et à ce qui se déroulait dans les cinémas aussi de manière plus générale. C'est une manière de garder les spectateurs au cinéma. Et on a l'impression que c'est un peu un scénario qui se répète. Hein. D'une certaine manière, le cinéma est une forme peut-être tellement fixe que lorsqu'on utilise un truc comme le 3D, ben on ne fait que reconduire finalement des principes qui ont été mis en place dans les 50 premières années de l'histoire du cinéma. Donc le format classique du cinéma demeure la référence, et peut-être que le 3D tel qu'utilisé par Cameron, par exemple, ou Burton, n'a pas fondamentalement changé la donne pour la production cinématographique récente ou la production cinématographique à venir. C'est une proposition qui est pas trop risquée de ma part, là. dans la mesure où vraiment on a l'impression d'un scénario qui se répète. Et je souligne à cet effet une proposition de Francis Ford Coppola, qui est bon, peut-être le cinéaste grand sage, un peu au-dessus de tout ça, qui en a vu d'autres, par rapport à ces jeunes louveteaux encore que sont Cameron ou Burton. Bon, c'est quand même des guerriers du cinéma qui sont en place depuis les années 80 dans le système, mais qui n'ont pas l'aura et le passé de Coppola. Donc Coppola disait, franchement, si on veut nous proposer un renouvellement du cinéma en nous sortant un vieux truc des années 50, c'est raté. Mais il se trouve que le contexte, si je peux ajouter, dans lequel le cinéma se retrouve aujourd'hui, est peut-être comparable à celui dans lequel il se trouvait dans les années 50. C'est-à-dire une période un peu incertaine où l'avenue de d'autres médias, en l'occurrence dans les années 50 la télévision, aujourd'hui les plateformes, les diverses plateformes de diffusion, que ce soit aussi bien les chaînes câblées qui font du mal, même d'ailleurs au club vidéo où on peut choisir ses films à la carte, ou encore Internet, où effectivement en très peu de temps on peut télécharger des films qui d'ailleurs pour les cinéphiles plus pointus permet de voir des films qu'on retrouve pas en salle, qui sont même pas diffusés sur DVD, sur support DVD dans les clubs vidéo. Tout à coup il y a une option comme ça pour attirer le spectateur, qui est celui de proposer de la 3D à nouveau. Évidemment ça touche pas spécialement les cinéphiles que j'ai nommés à l'instant, mais quand même ça les sollicite aussi drôlement, et j'étais un de ceux qui a été particulièrement curieux de l'effet et de l'impact du 3D, et qui me suis amusé à aller voir le film de Cameron, Avatar, et peut-être que la grande déception, je ne dirais pas le désarroi, mais en tout cas le constat que je peux faire, c'est que passé un certain temps, pour ma part, j'ai l'impression, encore une fois, d'assister à un truc, d'être sous le joug un peu d'une volonté du système de diffusion cinématographique actuel de garder ses spectateurs captifs, donc des enjeux commerciaux qui se dessinent derrière ces films diffusés à grande échelle, plutôt que une nouveauté esthétique qui transformerait la donne du cinéma. Bon, pas de risque en disant ça. Je reprends un peu la position de Coppola là-dessus. Par ailleurs, c'est une année, et ça va me permettre de faire le pont avant la pause, et une pause musicale aussi, ça va me permettre de faire le pont avec la suite du bilan 2010. C'est une année où des cinéastes qui n'œuvraient pas tellement dans le système ont trouvé le moyen de s'y immiscer un peu plus, en donnant l'exemple d'Aronofsky tout à l'heure. J'aimerais parler aussi de Werner Herzog. Werner Herzog, c'est lui aussi vraiment un ancien combattant, au même titre que Coppola, un cinéaste allemand qui a fait ses premières armes à la fin des années 60, qui fait partie à juste titre de la nouvelle vague du cinéma allemand des années 60, et qui a creusé son sillon extrêmement singulier, tout à fait à part dans la cinématographie allemande, et qui maintenant est installé en Californie, réalise une bonne part de ses films aux États-Unis. Entre autres, un film cette année qui a été un des bons moments pour moi du cinéma d'exploitation, qui est Bad Lieutenant, une nouvelle version de Bad Lieutenant, un film qui avait été fait par le New-Yorkais Abel Ferrara dans les années 90, qui est repris aujourd'hui avec comme acteur principal Nicolas Cage, justement, qui est le neveu de Coppola, dans le rôle du méchant lieutenant, déplacé cette fois à la Nouvelle-Orléans, donc un policier qui fait le mal, qui répand le mal, qui incarne le mal, qui est supposé incarner la loi, mais démontre qu'il peut absolument faire le contraire de la loi, tout en s'affichant comme étant le gardien de l'autorité. Donc une figure du mal au sens le plus presque biblique du terme, le plus clair, en tout cas le plus traditionnel du terme, mais aussi une incarnation du diable finalement. Mais aussi, c'est un film qui fait le portrait de la Nouvelle-Orléans. Comme je le disais, ça se passe à la Nouvelle-Orléans. Et à ce niveau-là, il y a une dimension documentaire absolument troublante qui est un peu en décalage avec ce portrait d'un personnage voué forcément, qui implique forcément une performance de l'acteur principal Nicolas Cage, qui est un acteur qu'on attend au tournant, qui est une star et qui est capable de performances physiques assez impressionnantes. C'est quelqu'un qui porte son corps. C'est un cinéaste, c'est un acteur d'action. Un acteur de cinéma d'action, et son corps est déterminant dans la place qu'il peut occuper dans un plan. Et à ce titre-là, c'est toujours intéressant de le voir évoluer, même dans des films assez moyens. Mais là, dans le film d'Herzog, tout à coup, l'intérêt se déplace, non pas seulement, on s'intéresse pas non seulement à la figure de la star, mais on s'intéresse aussi à la représentation de la Nouvelle-Orléans après le cataclysme de Katrina. Mais aussi, on s'intéresse peut-être à un point de vue plus animal, à la représentation de la nature qui tout à coup gruge la réalité quotidienne de la vie américaine. C'est incarné par Katrina, bien sûr, puis les dégâts que ça a causé à la Nouvelle-Orléans, mais c'est incarné aussi par cette espèce de personnage complètement décalé, presque chimérique, qui est un lézard, en fait, que l'on voit à plusieurs moments au cours du film, au-dessus duquel, un lézard ou une iguane plutôt, au-dessus de laquelle se trouve une caméra, une petite caméra qui est tenue ou en tout cas dirigée par Werner Herzog, et qui montre le moment d'un plan, dans une séquence par exemple, un point de vue un peu décalé sur la situation qu'on nous représente. Donc le point de vue qui serait celui de l'iguane, le point de vue de l'animal sur une situation qui est d'autant plus bizarre que le personnage principal est un personnage qui s'amuse à faire le mal. Et cette singularité-là, donc prendre le parti de la nature et le parti pris de l'animal jusque dans la mise en scène, jusque dans le point de vue que propose la caméra, eh bien, nous mène aussi à un autre film qu'a réalisé Herzog, dont j'aurai pas beaucoup de temps de parler aujourd'hui, mais j'espère qu'on en reviendra à un moment donné, au cours de l'année, un autre film qu'il a fait et qui est en 3D, justement. Et cette fois-ci, le 3D prend une valeur esthétique, et c'est peut-être là où le cinéma d'auteur peut s'immiscer dans cette mince frange, et c'est ce qu'incarne Herzog cette année, entre le cinéma purement industriel et un point de vue singulier, artistique sur le monde. C'est un film qui s'appelle The Cave of Forgotten Dreams, donc la cave ou la grotte des rêves oubliés, tourné dans une grotte dans le Périgord, donc où se trouve plusieurs, c'est pas Lascaux, c'est une autre, où se trouvent plusieurs images dessinées, des images rupestres, je sais pas si on peut dire comme ça, des images dessinées par des hommes de la préhistoire. Et ces images-là sont présentées en surimpression et l'effet 3D met en valeur des œuvres, en fait, peintes par les premiers hommes, donc forcément bidimensionnelles. Et tout à coup, l'aspect magique extraordinaire de la découverte aujourd'hui encore de ces œuvres prend une valeur renforcée qui n'implique pas simplement de dire ben voilà encore plus de réalité pour vos yeux, comme c'est le cas dans un film comme Avatar, où il y a un surcroît de réalité, une impression d'immersion dans l'image qui est mise en valeur par le cinéaste. Là, au contraire, il s'agit de mettre en valeur une esthétique qui est complètement dépassée, qui nous ramène au premier temps. Et cette espèce de mouvement, ce grand écart historique imposé par la technique de la trois dimensions que suggère Herzog est absolument extraordinaire et beaucoup plus révolutionnaire que ces productions davantage industrielles qui nous incombent ces années-ci.
Plus de 70 000. C'est précisément le nombre de personnes qui écoutent CKRL 89.1 dans la grande région de Québec et les environs. Depuis 1973, grâce à vous, CKRL se construit, se bâtit, évolue et grandit. Toujours à l'écoute. Aujourd'hui, la plus vieille radio communautaire en Amérique du Nord, voire même dans le monde, CKRL est toujours là. Grâce aux milliers d'animateurs, de réalisateurs, de collaborateurs qui ont animé ces ondes. Et grâce à vous, auditeurs et auditrices toujours nombreux, toujours à l'écoute. Merci de laisser CKRL 89.1 cultiver vos goûts depuis 1973.
Tous les jours de la semaine, de 13h30 à 15h30, Le Cercle vous présente l'émission Nouveau Cru sur les ondes de CKRL. Des après-midi dédiés aux nouveautés d'ici et d'ailleurs au pays. Une programmation résolument actuelle à l'image du Cercle.
Cercle. Pour l'année en beauté, le 29 décembre, la veillée du temps des fêtes des chauffeurs à pied avec le trio Stéphanie Gagnon, dès 21h. Et le 31 décembre, souper et compte traditionnel, suivi de la danse du diable. $49 par personne pour le souper 4 services et gratuit pour la danse de fin d'année. Et en janvier, ne manquez pas l'enregistrement de l'émission Les Arts Studios, Millimétrique et Who Are You le 5 des 20h. Smog et Corrupted Suburbs le 6, David Martel le 11, Forgotten Tales et Marionettics le 12, suivi de Jane Earhart et Mauve le 13, toujours des 20h. Le Cercle, 288 Saint-Joseph-Est, 418-948-8648, letraitdulioncercle.ca.
CKRL 89. Cultive tes goûts.
Le matin dès 6h, 7 jours sur 7, notre directeur musical Daniel Marcoux vous concocte une sélection toute francophone. Réveillez-vous en français d'abord au 89.1.
CKRL 89.1. Cultive tes goûts.
Cultive tes goûts.
Oui, alors on vient d'entendre Bud Powell, le grand, l'immense pianiste de jazz Bud Powell, dans sa relecture de T42, l'auriez-vous cru? C'était à la fin des années 50. Je vais faire un bilan 2010, cinéma, sans parler de peut-être du système d'exploitation comme je l'ai fait dans la première demi-heure, et je vais le faire assez rapidement. Donc non seulement c'est un défi, mais c'est aussi complètement regrettable. Je m'en excuse d'emblée. On pourra pas dire grand-chose, je ne pourrais pas dépasser plus de 5 minutes là-dessus pour enchaîner un peu avec Darren Aronofsky. Simplement pour dire que cette année, et ce que je reprends, je tiens à souligner, même chose que dans la première demi-heure, est aussi une sorte de condensé de ce que beaucoup de commentateurs ont dit au cours de l'année. Je suis nourri de mes lectures, évidemment. Je lis de manière régulière, comme vous le savez, tout ce qui peut se dire en anglais et en français, du moins, sur le cinéma qui se fait. Sur une base quotidienne dans l'actualité. Alors, je peux pas faire autrement qu'être imbibé de ce que les autres ont dit et essayer de ramener ça à ma sauce autant que faire se peut avec ses bons et ses mauvais côtés. Je dirais simplement qu'au cours de l'année, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est dessiné d'assez troublant, qui est incarné par la palme d'or qui a été remise à Pichatpong Versakul. Et j'ai toujours l'impression que son nom de famille, je le prononce en oubliant une syllabe, mais du moins, on peut l'appeler Joe, puisque c'est son nom familier que les cinéphiles lui ont donné, peut-être que lui-même s'est attribué, je crois. Donc Joe a réalisé des films depuis quelques années qui ont un peu changé la donne en ce qui a trait à l'idée qu'on peut se faire du cinéma contemporain, très influencé par sa culture donc thaïlandaise, aussi une pensée de la réincarnation qui s'exprime dans ses films, ce qui est assez singulier et qui, de mémoire de cinéphile, ne correspond pas à aucune autre œuvre. Surtout que cette éventualité de la réincarnation, qu'il faut prendre à un niveau poétique, non pas à un niveau littéral, religieux, même si c'est clair que Pichatpong est le produit de sa culture et de sa religion, cette référence à la réincarnation implique vraiment une idée assez magique dans la construction des personnages, assez poétique, qui suppose aussi le retour des fantômes. Et ce que propose Pichatpong est assez singulier. Évidemment, on sait que la figure du fantôme dans le cinéma, c'est quelque chose qui existe depuis les débuts, qui revient sans cesse et qui a à voir avec la nature même du cinéma, qui est de capter finalement des corps à un moment précis de leur... des corps des gens, des acteurs, à un moment précis de leur vie et de les laisser dans cette position-là. Donc, on peut dire que ça les momifie à long terme, lorsqu'on regarde un film des années 50 avec des acteurs tous décédés. On peut dire aussi que ça fait deux des spectres à long terme, puisque le film ne ferait que capter finalement une présence ou une part de la présence ou de l'attitude d'une personne et d'un acteur. Et a fortiori un acteur dans la mesure où effectivement ça ne peut être qu'une part, il joue un rôle. Mais aussi l'idée donc que le cinéma est une sorte de vacuum de présence, c'est des réflexions qui se sont faites souvent dans les analyses de films au cours des ans, et quelqu'un comme Marc Vernet a pu écrire un esthéticien disons du cinéma a pu écrire dans les années 80 sur la notion de présence au cinéma et comment la photogénie entre autres contribue à donner un effet de spectralité au film que l'on voit. Et je dirais qu'en plus, s'il y a une distance dans l'espace et le temps entre le spectateur et le film. Et on a l'impression que Pichatpong vient faire une relecture de cette considération-là esthétique du cinéma en l'ancrant dans sa culture, en lui donnant une spécificité culturelle inattendue qui rejoue un peu une problématique cinématographique qu'il a depuis le début, en la déplaçant vers une problématique culturelle. Donc, le film a pu être incompris. Son film cette année, c'est Oncle Bonnemi. Je pense que vous pouvez encore le voir, ou en tout cas, il joue encore tout récemment, projeté en DVD, je crois, ou en fichier numérique au Cinéma Quartier. C'est un film qui suppose pour les spectateurs aujourd'hui d'avoir en tête la spécificité culturelle thaïlandaise. Et c'est une bonne raison peut-être pour justifier le fait que le film soit opaque ou soit difficile à comprendre ou à décrypter. Plusieurs spectateurs pourront arguer, et des spectateurs aussi qui sont aguerris, là, qui connaissent bien la production cinématographique récente, etc., pourront arguer que finalement il leur manque des éléments parce qu'ils connaissent mal la culture thaïlandaise. Alors que justement, c'est ce que j'essaie de justifier pour mettre en valeur le cinéma de Pichatpong à un niveau universel, C'est pas ça du tout qu'il essaie de faire. Il essaie au contraire de recentrer finalement une problématique propre au cinéma dans en le plaçant dans un cadre culturel précis. Alors, au contraire, je dirais que si on va au cinéma comme on voyage, comme en choisissant de manière tout à fait ouverte de se laisser porter par le film et par l'esthétique d'un cinéaste, bien, on pourra découvrir une réalité du cinéma, une singularité du cinéma qui trouve aussi à s'incarner dans une singularité culturelle. Et on pourra avoir une idée de la vision du monde exprimée dans une culture, par exemple la culture thaïlandaise, en allant voir ce film-là, sans arrière-pensée, sans idée préconçue et en étant ouvert. Donc c'est le défi d'un film comme celui, donc Le Bon Ami, d'un film comme Tropical Malady aussi, que vous pourriez trouver dans les clubs vidéo, par exemple, sans doute qu'ils l'ont, au club vidéo Centre-Ville sur Marine l'Incarnation. Donc c'est le défi que propose Apichat Pong au cinéma contemporain, une manière de reconduire la mise en scène autour de la notion du fantôme, entre autres. C'est donc aussi un choix qui a fait polémique, puisqu'on a choisi le comité présidé par Tim Burton, justement, qui a aussi fait un film en 3D cette année, dont je parlais il y a quelques minutes. Le comité présidé par Tim Burton à la Mostra, mais c'est au Festival de Cannes, a décidé de lui offrir la Palme d'Or. Et les observateurs auront dit aussi que l'exemple de cette Palme d'Or donnée à Apichat Pong est aussi une manière d'avoir en tête une fissure de plus en plus grande qui se dessine entre ce qui se fait dans le cinéma d'auteur et le tout venant du cinéma, la production commerciale ou la production dite « mainstream ». C'est peut-être un peu rapide de dire les choses ainsi, mais c'est vrai qu'il y a peut-être une exigence dans la mise en scène d'Apichat Pong qui fait en sorte que de Joe, disons, c'est plus amusant de l'appeler Joe peut-être pour nous, qui fait en sorte que une partie du public va te rebuter, mais c'est tout en l'honneur finalement du comité du Festival de Cannes. J'ai toujours l'impression qu'il y a un nom spécifique au Festival de Cannes, mais j'ai l'impression que c'est juste le Festival de Cannes. C'est pas la Mostra comme à Venise. Donc, c'est tout en l'honneur du comité, du jury du Festival de Cannes d'avoir remis ce prix à un film qui rejoue, si on veut, de manière décalée, les enjeux principaux de l'esthétique cinématographique. Donc, je terminerai un peu finalement là-dessus parce que j'ai pas tellement de temps pour aller plus loin. Simplement souligner aussi, dans le contexte du cinéma québécois, que des cinéastes comme Denis Côté et Xavier Dolan, cette année, ont pu montrer qu'ils étaient en mesure de se renouveler. Que dans le cas de Dolan, bon, c'était particulier parce qu'évidemment, il avait fait seulement un premier film. On avait tellement parié sur lui qu'on pouvait penser qu'il allait faire « J'ai tué ma main en deux », qui était son premier film. Au contraire, il a fait « Les amours imaginaires », qui est un film qui déplace un peu les enjeux de son propos. Ce qui ne veut pas dire que la caméra se déplace d'un regard un peu narcissique posé sur soi, hein, parce que Dolan écrit, réalise ses films et joue dedans. Et il aime bien se filmer, comme l'ont remarqué plusieurs. Mais tout à coup, il y a une ironie qui ressort de ce film et une capacité aussi à écrire des dialogues, à faire parler ses personnages sans que ce soit une langue qui soit forcément une langue, hyper réaliste tel qu'on l'entend souvent dans le cinéma québécois. Donc il y a quelque chose d'assez positif, je dirais, pour le cinéma québécois, où on sait que la langue est un enjeu principal qui a pu être négligé, entre autres du fait que le travail du dialoguiste dans les films a eu du mal à s'arrimer pour des raisons culturelles peut-être évidentes là, au cours de la production cinématographique québécoise des dernières décennies. Si je pouvais dire les choses que, grossièrement et peut-être en exagérant le trait, quand même, c'est un des apports de Dolan d'avoir un sens de mise en scène de la parole dans ses films, en tout cas, du moins dans son dernier film, qui peut faire la différence pour la suite. Et Denis Côté, c'est un cinéaste qui rejoue souvent les mêmes thèmes. Dans ces films, il y a toujours un cadavre qui est caché. J'en ai parlé un peu à la fin du mois de décembre. Il y a toujours un cadavre qui est caché. C'est toujours des personnages reclus. Il l'analyse bien lui-même, d'ailleurs, dans ses entrevues. Mais c'est aussi un cinéma de la photogénie. C'est aussi un cinéma qui prend le temps. Qui prend le temps de filmer ses personnages, qui prend le temps de montrer une situation qui fait durer des plans. Et en ce sens, c'est peut-être l'incarnation, disons, les films de Denis Côté sont peut-être l'incarnation de ce qui serait un des chevaux de bataille du cinéma contemporain québécois, celui de la volonté de faire durer les plans, la volonté de prendre son temps. Et c'est aussi une manière, je dirais, limite de s'inscrire en tant que cinéaste, comme auteur, à contre-courant de la production. Et ça peut aussi relever de la pause. Mais dans le dernier film de Côté, il y a, je trouvais, comme jamais auparavant dans ces films, une capacité à mettre en scène ces personnages dans des situations qui justifiaient cette mise en scène de l'attente et légitimait aussi un travail de la photographie très scénographique qui fait tout le prix d'un tel cinéma. On vient d'entendre toujours Bud Powell au piano, magnifique Bud Powell, années 50, avec un peu de grichement dans le son, puisque apparemment les bandes ont été abîmées à un certain moment, je ne sais pas quand, mais elles ont été mal conservées sans doute, et il reste quelques bruits, à moins que ce soit un repiquage de vinyle de manière tout à fait inacceptable, mais c'est comme ça qu'on retrouve les enregistrements de cet album mythique de Powell aujourd'hui, sur Etiquette Verve. Alors, je vais être tout à fait radical. Je vais proposer de faire un portrait du dernier film de Darren Aronofsky et un portrait de Darren Aronofsky en à peu près 10 minutes, alors que je comptais le faire en peut-être 15-20 minutes. Faire le bilan 2010, c'était un défi en soi, donc imaginez, ça a pris un quart d'heure de plus, imaginez présenter Darren Aronofsky en quelques minutes, et en plus parler de son dernier film. Je vais quand même le faire, et très très rapidement, mes chers. Donc, Aronofsky, qui est-ce? C'est un cinéaste qui, d'abord, s'est illustré sur la scène indépendante au début des années 2000, en fait, juste un peu avant. Son premier film indépendant s'appelle Pi, il date de 1998, et c'est un film qui avait été couronné, entre autres, à Sundance, réalisé au coût de 60 000 $. Il s'est retrouvé rapidement dans les pôles critiques, le top 10 de l'année, là, à la fin 98, le mettait régulièrement dans sa liste, du moins chez les critiques américains. Et Pi était un film extrêmement prometteur, réalisé avec peu d'argent, qui tournait autour d'une problématique qui va être très... très importante, disons, dans tout le cinéma d'Aronofsky à venir, c'est-à-dire celle d'un personnage à la limite de la folie, pas n'importe laquelle, une sorte de psychose qui passe par une volonté aussi d'autodestruction. Et c'est un personnage qui, volonté d'autodestruction ou volonté de travail à outrance, donc de dépassement de soi. Et le personnage de Pai est aussi quelqu'un qui essaie de... En fait, qui a l'idée assez folle. C'est un film qui a une prétention presque à la... qui prétend connaître la science, mais en fait est surtout en train de représenter une utopie mentale, je peux pas dire ça comme ça, mais une utopie c'est déjà une idée, donc une utopie du monde qui passe par les mathématiques, donc les mathématiques comme utopie, c'est un peu un des thèmes du film, et le personnage pense pouvoir comprendre la nature simplement par les nombres, par la mathématique. C'est déjà une sorte de folie en soi que de penser ça, mais il essaie d'élaborer de grands calculs pour le prouver. Et sur son chemin, il va rencontrer, entre autres, un spécialiste des recherches mathématiques sur la Torah, qui va le mener à s'intéresser de plus en plus au rapport entre la mathématique et l'irrationnel, y compris au discours religieux. Donc, un film qui, dans la description, est complètement délirante et qui, en effet, est un défi de mise en scène, certainement, qu'a relevé Aronofsky, le mettait sur un terrain particulièrement dangereux, risqué. Ce film-là, c'est un pari. Réussir à transmettre au spectateur un personnage qui est obsédé par les mathématiques et qui travaille tout le temps pour prouver ses théories, c'est un défi en soi. C'était tourné en noir et blanc, avec une esthétique qui peut rappeler celle évidemment du cinéma, même pas du film noir, mais du cinéma allemand ou d'un certain réalisme poétique qu'on a pu voir dans le cinéma français aussi des années 40. Donc, un cinéma de brume, un cinéma en noir et blanc qui est volontiers sale, qui se passe la nuit, etc. Donc, qui renchérit sur la spécificité photogénique noir et blanc de l'image. Donc, il y a ce film-là puis qui était tout un coup d'envoi pour Aronofsky. Ensuite, il fait un autre film 2 ans plus tard qui s'appelle Requiem for a Dream, qui est une adaptation du grand écrivain, d'un roman du grand écrivain Hubert Selby. Cette fois-ci, c'est un film qui s'intéresse davantage à la toxicomanie, donc à l'autodestruction qui se déroulait dans le travail dans le premier film d'Aronofsky. On passe à une autodestruction qui implique donc un alcoolisme, une dépendance à la drogue aussi, partagée par tous les personnages du film. C'est un film très mélodramatique qui travaille beaucoup autour d'une mise en scène qui choisit d'utiliser souvent le montage alterné, donc plusieurs personnages qui se trouvent dans des situations distinctes, acculés au pied du mur, vont être montrés de manière alternative et ça va créer un rythme particulier à ce film, très efficace, très tapageur, une volonté du cinéaste, un peu à la manière aussi du film Magnolia de Paul Thomas Anderson à la même époque, volonté du cinéaste de montrer toutes ses capacités de mise en scène, toute sa maîtrise de la mise en scène. Donc il y a aussi une mise en valeur de l'ego qui passe dans le propos assez ampoulé, mais l'ego du cinéaste qui passe par le propos assez ampoulé mélodramatique du film. Ensuite, son troisième film, c'est un film qui s'appelle The Fountain, et là, on a eu un trou, en fait, de 6 ans, puisque Aronofsky aurait eu vraiment du mal à financer le film, mais c'est peut-être son film clé pour comprendre la carrière qu'il mène en ce moment. Il s'est battu comme un dément pour réussir à monter ce film en 2006, réalisé en partie à Montréal, dans les studios, qui se passe dans 3 époques différentes avec 2 personnages. Donc, une partie du film se déroule au 15e siècle, la deuxième partie se déroule aujourd'hui, et la troisième partie se déroule dans un futur incertain, ou en tout cas dans un futur lointain. Encore là, presque utopique, puisqu'on voit un personnage qui semble vivre sur une planète avec un arbre, qui il y a une histoire d'amour qui se déroule entre, si je peux dire, entre ce personnage du futur et un arbre, donc un rapport physique charnel entre l'homme et la nature. C'est un peu un des thèmes forts de ce troisième film, et qui fait le pont peut-être avec Pi, ou la question de d'une emprise psychique sur la nature via les mathématiques est finalement rejouée dans ce film, où tout à coup il y a comme ça un délire communicationnel qui s'introduit entre le personnage et un arbre. Donc là encore, c'est pour ça que je parle de cinéma psychotique, c'est parce qu'on a l'impression qu'on est un peu dans la folie mentale d'un personnage lorsqu'on voit ce genre de film. Maintenant, Le dernier film d'Aronofsky, ça s'appelle, j'ai vraiment passé vite sur The Fountain, ça s'appelle Black Swan, ça vient tout juste de sortir. C'est un film avec Natalie Portman, entre autres, et Vincent Cassel, qui se déroule principalement dans un ballet à New York, dans une école de ballet à New York, où Natalie Portman se retrouve finalement dans une situation assez délicate où elle veut avoir le rôle de la première danseuse dans une mise en scène en ballet du Lac des Cygnes de Tchaïkovski. Elle va sans doute l'obtenir. Le maître des lieux s'appelle Vincent Cassel. C'est lui qui s'appelle pour Vincent Cassel dans le film, mais c'est Vincent Cassel qui joue ce film, qui joue ce personnage. Et l'emprise entre le directeur du ballet et la danseuse pressentie principale, Natalie Portman, est déterminant pour l'évolution du film. Donc une emprise qui passe à la fois par la séduction, mais aussi par simplement le fait qu'il dirige le ballet, et on a l'impression jusqu'à la toute dernière minute que Portman pourrait perdre finalement le rôle qu'on lui donne de première danseuse. Et dans cette éventualité qu'elle perde ce rôle-là, il y a aussi une dynamique duel qui se joue entre Natalie Portman et une autre danseuse qui devrait être sa remplaçante et avec laquelle elle a une relation fantasmée ou réelle, on ne le sait trop, une relation d'amour et une relation charnelle, fantasmée ou réelle, on ne le sait trop. Il y a sans cesse dans le film un décalage entre la réalité et la fiction, l'espace mental dans lequel se trouve la protagoniste qui veut avoir ce premier rôle et qui est vraiment face à une pression totale qui vient non seulement de Vincent Cassel, donc le directeur du ballet, mais aussi de sa mère, qui est une ancienne danseuse et qui installe tous ses espoirs en sa fille, finalement. Donc, il y a cette tension-là qui s'installe aussi, évidemment, dans cette relation en miroir avec cette autre danseuse qui pourrait la remplacer. Donc, il y a tout un jeu ici vraiment tendu entre une représentation au sens strict du terme, disons un spectacle, et la représentation qui s'insère dans cette représentation en spectacle, mental du personnage. Et ça, c'est assez extraordinaire. Là, c'est là où je parlais de dynamique psychotique qui atteint peut-être son apogée dans le film. Peut-être que certains cliniciens aussi diraient, bon, c'est pas tout à fait psychotique, disons schizophrénique. Certes. La dernière séquence est sublime. J'ai quelques réserves pour ce film simplement parce que j'ai vu quelques temps auparavant une mise en scène du vilain petit canard dans un film d'animation réalisé par Gary Bardine, un cinéaste russe, lors des sommets du cinéma d'animation de Montréal à la Cinémathèque. Et il y a du Tchaïkovski mur à mur déjà, mais c'est montré d'une manière assez comique. Et dans Black Swan, il y a aussi du Tchaïkovski mur à mur. Forcément, je pensais pas nécessairement à l'avantage de Black Swan ou vilain petit canard lorsque je regardais ce film. Et je dois dire qu'il y a beaucoup de Tchaïkovski, j'ai un peu de mal, mais la dernière séquence, j'ai un peu de mal parce que je suis pas fan, je trouve ça un peu trop lyrique à mon goût. Mais la dernière séquence est sublime et joue au maximum cette confusion entre représentation scénique et représentation mentale du personnage, dans la mesure où on voit Natalie Portman qui se retrouve à finalement avoir son premier rôle dans le ballet, à jouer son personnage, et soudainement, elle se transforme en oiseau sur la scène. Et ce moment qui est absolument extraordinaire, il est attendu, il est annoncé progressivement au cours du film, cette potentielle transformation. C'est exceptionnel et tout à coup, la symbiose est effective, sans conteste, entre la situation mentale dans laquelle se trouve le personnage transformé, qui se transforme en oiseau. C'est le propre rang du danseur de considérer qu'il doit pratiquement être quelqu'un qui peut voler, qui peut faire ressentir la possibilité de voler au spectateur, mais elle devient littéralement un animal dans ce processus-là où elle fait ressentir au spectateur le fait qu'elle peut voler. Et cette animalité-là a à voir avec la pugnacité, la combativité qu'elle déploie tout au long du film. Et non seulement cette transformation-là est symbolique, mais elle est réelle, au moins dans la tête du personnage, et on a l'impression que les spectateurs peuvent voir cette transformation littéralement. Elle commence à avoir un plumage et elle montre ça à la foule dans la salle qui l'applaudit à tout rompre. Et je dirais que Aronofsky, à travers ce film, accomplit une thématique qu'on voit depuis le début, qui consiste à, dans ces films, qui consiste à montrer cette espèce d'utopie aux ornières de la folie, où à tout moment, on peut considérer qu'un personnage peut devenir une bête, peut devenir un animal, et que c'est la seule façon pour lui de s'accomplir et de survivre dans un monde de fous.
CKRL a des espaces à bureau à louer. Contactez votre courtier immobilier agréé Remax Fortin de l'Âge, Jean-Philippe Deschênes, 88-653-5353.
Pour sa 25e année, le Bal du Lézard poursuit sa mission de faire découvrir au public des artistes et groupes de la relève. Le tout dans l'environnement unique du bal et devant une clientèle qui a soif de nouveaux sons, tous genres confondus.
En janvier, ne manquez pas La Ritournelle, le 8, la formation Jazz Manouche aux accents rock, Mélogramme, le 18, et l'incontournable Gab Paquette, le 22.
Le Bal du Lézard, 1049, 3e avenue.
CKRL. Cultive tes goûts.
Je ne suis qu'une part de qui.
Oui, Guillaume Lafleur avec vous. Vous écoutez au 16e ciel, on vient d'entendre Dorval, une chanson qui s'appelle « Celle que vous croyez ». Dernière demi-heure, j'ai réussi à parler d'Aronofsky en 15 minutes, c'est magnifique. On va parler de Claude Jutras. Claude Jutras, c'est quoi ? Ben, c'est plusieurs choses, c'est bien des choses. Il se trouve, comme je le disais en début d'émission, qu'il y a une rétrospective de ses films en ce moment qui est présentée à la Cinémathèque québécoise à Montréal. Et cette rétrospective-là est très exhaustive au sens où on n'y voit pas seulement les films attendus de Jutras, évidemment, un cinéaste qui a commencé dès les années 40 à faire des films et qui a terminé sa vie assez abruptement de cinéaste et d'homme au milieu des années, au milieu des années 80. Voilà, ça fait 25 ans qu'il est mort. Des films phares comme À tout prendre, qui est sans doute un des plus grands films du cinéma québécois, point barre, un des plus courageux aussi. Et un des plus emblématiques du cinéma québécois des années 60, évidemment Mon oncle Antoine, qui est vu souvent comme le film québécois par excellence. Bon, c'est un film qu'on peut retrouver effectivement dans, par exemple en DVD dans la collection Criterion. C'est le seul film québécois qui se trouve dans cette collection-là et certainement un des seuls films canadiens. Je ne sais pas s'il y a des films de Cronenberg dans Criterion, peut-être de Guy Madden, mais certainement Mon oncle Antoine est le film sélectionné aussi souvent dans les fameux top 10 que j'évoque depuis tout à l'heure, un des plus grands films canadiens, disons-le. C'est aussi le réalisateur de Kamouraska, un film mal aimé par son principal auteur, évidemment, parce qu'il a été amputé à l'époque. C'est une histoire assez triste qu'il a un peu abîmé, disons. Jutras a été évidemment assez affecté par cette situation liée aux contraintes de production, qui est par ailleurs un classique dans l'histoire du cinéma. Ça arrive tout le temps, des cinéastes dont les œuvres se font charcuter. Certains s'en sortent avec les honneurs, malgré tout, parce que le film est tellement fort. C'est le cas de Wells. C'est déjà moins le cas de certains films de Truffaut qui ont été charcutés, ou encore... De Kamouraska, de Jutras. Mais j'aimerais mettre l'accent sur une série de films, évidemment, c'est beaucoup plus surprenant et ça vaut la peine d'en parler, qui n'ont pas été vus de Jutras ou à peu près pas, et qui se trouvent dans la collection de la Cinémathèque. Dans certains cas, c'est des films que les gens de la Cinémathèque, et en particulier Fabrice Montal, le programmateur conservateur, ne connaissaient pas ou du moins ne savaient pas qu'ils se trouvaient dans la collection. Donc il a fallu les trouver. Certains films qu'on croyait perdus. Je vais parler en fait de deux programmes que j'ai pu voir dans cette rétrospective Jutras qui s'amorçait mercredi dernier. Le premier, c'est sans doute le plus surprenant, le plus dense. Ça dure à peine 70 minutes, mais c'est extrêmement dense. On y voit des films très touchants en fait qu'on n'a peut-être pas eu l'occasion de voir autrement. Je pense en particulier à un film qui s'appelle Abstraction de Pierre Jutras, qu'on croyait perdu jusqu'à tout récemment, avant qu'on le retrouve justement dans la collection de la Cinémathèque et qu'on le restaure. Il y a un film aussi qui s'appelle, disons, il s'appelle comme ça, là, c'est plus un film de jeunesse, ça s'appelle Papa qui peint. Donc c'est un portrait que fait Jutras de son père qui peint en fait à la fin des années 40. Il y a un film aussi qui s'appelle Étude, qui est en fait un film réalisé avec des amis lorsque Jutras était étudiant en médecine. On le voit entre autres danser avec un squelette. On le voit aussi donc avec des amis faire étudier l'anatomie, etc. À travers cette série de films-là, il y en a quelques-uns qui se dégagent, dont un entretien fleuve, disons une demi-heure, avec Federico Fellini. Il se trouve que Michel Brault était là pour venir présenter ce programme de films, parce que Michel Brault, qui est évidemment un directeur photo majeur dans l'histoire du cinéma québécois depuis les années 50, c'est l'un des principaux acteurs de l'aventure du cinéma direct par son travail photographique exceptionnel qui en a fait des envies un peu partout à travers le monde. C'est aussi quelqu'un qui a commencé en travaillant avec Jutras. Donc Brault était évidemment un personnage de premier plan pour venir nous parler de la jeunesse de Jutras qui était illustrée dans cette programmation de films. Et en particulier, Brault était un scout comme Jutras. Ils se sont connus pratiquement dans ce contexte-là. Ils ont étudié brièvement à l'école ensemble, mais ensuite ils se sont retrouvés via le scoutisme. Et s'en suit une amitié qui se dessinent notamment évidemment par, par leur intérêt commun pour le cinéma. Bro va apprendre à faire des films au contact de Jutras, si on veut, et tous les deux, c'est ce que racontait Bro mercredi, s'appliquaient à étudier les films, entre autres dans la maison familiale de Jutras. Ils allaient tous les deux dans un bois à proximité de la maison. Ils dressaient un drap, et puis avec un projecteur 16 mm qui était courant à l'époque, en fait, pour les particuliers, les gens qui avaient un peu de moyens pouvaient s'en acheter facilement. Ils se projettent des films qu'ils commandaient à Montréal, et des films de toutes sortes. Bro explique comment des films industriels, par exemple, pouvaient intéresser les jeunes Jutras et lui, en fait, dans la mesure où on y apprenait le métier. On se posait des questions sur la façon dont certains plans avaient été tournés, on essayait d'y répondre. Donc, tous les enjeux techniques qui font partie du cinéma étaient pris en compte par les jeunes Bro et Jutras, et c'est évidemment déterminant. Bro insiste là-dessus, déterminant dans la suite de leur collaboration et déterminant aussi dans l'aventure du cinéma québécois, dans la mesure où il y a eu un processus d'appropriation de la forme cinématographique qui s'est mis en place par une connaissance quasi scientifique des films. Donc ça va au-delà de l'amour des films, de la mise en scène et d'un intérêt pour un certain nombre de cinéastes, comme on s'intéresse aux écrivains par exemple, avec un peu de culte ou de fétichisme. Donc, c'est pas simplement une mise en valeur d'Hitchcock, mettons, qui a animé, ou Chaplin qui a animé les jeunes Bro et Jutras, mais aussi une mise en valeur et une reconnaissance, surtout de la technique cinématographique, de ce qui faisait la particularité de la technique cinématographique pour mieux se l'approprier. Donc, c'est des cinéastes qui, d'entrée de jeu, sont des cinéastes indépendants. C'est des cinéastes qui ne travaillent pas d'abord à l'Office national du film, où il y aurait effectivement tout un appareillage technique et un certain nombre de techniciens qui leur aideraient à apprendre le médium. C'est plutôt des aventuriers qui s'approprient le médium et la forme cinématographique. Ça, Bro l'a expliqué très bien, avec une certaine bonhomie, avec beaucoup de calme du haut de ses 80 ans. Entre autres, en parlant du film Pierrot des Bois, qui est un film tourné en 1956 dans un boisé, simplement Bro et Jutras je me demande même s'il y avait un preneur de son. Donc, Bro et Jutras qui filme. Jutras est déguisé en clown, il fait un Pierrot, ils sont dans les bois. C'est pratiquement un film expérimental, un film en tout cas très poétique. Et Bro nous en parlait en se demandant comment il avait pris telle prise de vue. Il y a quelques effets spéciaux dans ce film, et entre autres, il y a un moment où on a un plan qui commence où on voit Pierrot, Jutras. Des pieds, la caméra monte peu à peu, puis soudain, on a l'impression que Pierrot est suspendu en l'air, parce que plus la caméra monte, il y a une coupe franche, et puis on voit Pierrot la tête presque dans les ciels, ou dans le ciel, ou dans les arbres. Et Bro s'est posé la question devant nous, est-ce que j'avais monté dans un arbre pour faire ce plan-là? et puis avec une part de défi dans le regard, lorsqu'il a posé cette question, et aussi peut-être se rappelant comment il savait prendre des risques ou faire quelques entourloupettes, une cascade physique pour arriver à leur fin. Donc c'était vraiment des aventuriers du cinéma avant d'être des cinéastes qui ont travaillé dans le système. Et d'une certaine façon, ils ont aussi créé un système, ou du moins un nouveau système. Il y a deux éléments, deux films dans ce premier programme qui sont particulièrement intéressants aussi, dans la mesure où il donne son cloche détonnant dans l'idée qu'on peut se faire de Jutras. En particulier, il y a un témoignage de Jean Chabot, qui est un cinéaste, mais aussi un historien du cinéma québécois, entre autres, ou en tout cas un critique, disons, appelons-le comme ça, qui a enseigné le cinéma, qui vient parler de sa bonne connaissance de Jutras, c'était des amis. Il raconte comment, à son avis, Jutras est le cinéaste d'un film en particulier, ce film que je nommais tout à l'heure, À tout prendre, un film où Jutras n'a pas eu de mal à se confronter à ses ambiguïtés, entre autres ambiguïtés au niveau de l'identité, que ce soit une identité au sens plus générique, là, qu'on utilise très très souvent de nos jours, donc qui suis-je, mais aussi une identité sexuelle, et entre autres la question de la représentation de l'amour, mais aussi de l'homosexualité et des amours interdits au cœur de ce film. Et c'est ce qui en a fait, les amours interdits, il faut se remettre dans le contexte de l'époque, là. Donc amour par exemple avec une mulâtre dans Tout prendre, et aussi appréhension de l'homosexualité du personnage principal qui est incarné par Claude Jutras, et qui forcément est une appréhension qui est très autobiographique. Chabat explique comment, à son avis, Jutra est devenu un peu un paria après avoir fait ce film-là. Ou du moins, dans la tête de Jutra, il était un paria. Et que c'était le propre d'une personne qui était très seule, en fait. Et Chabat raconte, entre autres, comment en 83, il y a eu une projection en France du film À tout prendre, dans une petite ville qui s'appelle Le Puy, où se trouvaient Chabat et Jutra. Et Jutra, dès le début de la projection, dit à Chabat, « Bon, écoute, je vais en aller au bar. Tu me diras comment ça se passe. » Chabat est sorti quelques fois pour lui dire comment les gens riaient, comment les gens réagissaient positivement à son film. Et Jutra n'arrivait pas à y croire et il restait dans une sorte de soliloque, rappelant en fait la déception de la réception de son film en 63, qui avait été très difficile malgré qu'il ait emporté des prix à Montréal. Donc, ce témoignage-là de Jean Chabat est de première main aussi parce qu'il explique comment Jutra n'est pas un cinéaste qui vient de nulle part, évidemment, mais qui, entre autres, a été sous l'influence de l'automatisme et de l'art pictural et de la modernité en art. C'est une réalité qui est aussi importante pour Gilles Groulx, qui était proche de Gauvreau et Mousseau. Le père de Jutra était un collectionneur d'art et un ami de Paul-Émile Bordua, et évidemment, Jutra, le jeune Jutra, a bien connu dans ce contexte Paul-Émile Bordua. Donc, c'est certainement une influence majeure pour Jutra, qui explique que son cinéma ne soit pas exactement un cinéma que l'on associe au cinéma direct, même s'il y en a été très proche, même s'il a été très proche de ce courant. Donc c'est pas un grand cinéaste documentariste comme tel, même s'il a fait d'excellents documentaires, c'est pas ce qui le stimulait dans le cinéma. Mais c'est plutôt une appréhension plastique, moderne et complexe. Puis ça touche aussi la complexité identitaire qu'il met en scène, qu'on ne retrouve pas dans les documentaires à l'époque québécois. C'est ces questions-là qui l'animent, en fait, et qui le rapprochent de la modernité en art plutôt que de la modernité tout court, propre au cinéma, qui peut rejouer à sa manière des paradigmes plus classiques.
Thank you.
Lafleur en onde avec vous pour un petit 5 minutes encore. Vous écoutez Au 7e ciel, Regard sur le cinéma. Avant d'enchaîner à propos de Claude Jutras, peut-être encore quelques mots. Je voudrais spécifier qu'il y a une... On vient de m'appeler en fait et il y a une publicité concernant le spectacle Ritournelle au bal du Lézard qui n'est pas le 18 comme il est annoncé, comme c'était annoncé dans la publicité, mais plutôt ce soir à compter de 8h30. Alors pour ceux qui s'intéressent et qui ont entendu cette pub, apparemment il y aurait une erreur qui serait à revérifier, mais on me confirme qu'il y a une erreur là, dans la publicité. Donc voilà. Je voudrais simplement ajouter une chose. Bon, premièrement, on vient d'entendre une chanson de Dorval là, qui est assez mélancolique. C'est dommage qu'on associe souvent le cinéma de Jutras à quelque chose de relativement mélancolique, à voir peut-être avec la question un peu complexe de l'appréhension d'identité qui touche en fait toute l'œuvre de Jutras et son parcours, parce qu'on sait évidemment qu'il est décédé, qu'il s'est suicidé en fait. Apparemment, il avait des problèmes de mémoire. C'était pas forcément de l'Alzheimer, contrairement à ce qu'on a dit, parce que d'un point de vue clinique, ça se peut à peu près pas. Supposément, donc probablement plus des séquelles d'un accident, perte de mémoire qui font en sorte qu'il a décidé de se jeter dans le fleuve au milieu des années 80 avec l'étiquette qu'on connaît bien, on connaît bien cette anecdote-là, l'étiquette Claude Jutras, cinéaste, accrochée à sa veste. Donc évidemment, c'est extrêmement lourd et ça fait partie de son œuvre absolument, cette question... un peu du flou identitaire qui passe aussi finalement par la maladie et la perte de mémoire. J'aimerais quand même souligner à quel point il y a une énergie, une force vitale qui s'exprime dans le cinéma de Jutras, en particulier dans les années 60, et qui était illustrée de manière remarquable dans le deuxième programme auquel j'ai assisté à la Cinémathèque québécoise, jeudi dernier cette fois, un programme double en fait. Le premier film est un film que Claude Jutras a réalisé en 63 avec Pierre Patry, donc la même année qu'À tout prendre, et qui s'appelle Petit discours de la méthode, un film très très drôle en fait, où Jutras et Patry vont en France, Pierre Patry joue le rôle principal là-dedans, celui d'une sorte d'espion canadien qui veut en savoir plus sur la soi-disant supériorité technique et culturelle de la France. Et c'est un film extrêmement ironique, Petit discours de la méthode, qui souligne évidemment le discours de la méthode de Descartes, en le ramenant à sa plus simple expression. C'est un film de 30 minutes qui voudrait faire le tour d'un enjeu qui est culturel et qui a à voir avec l'idée aussi que se fait l'intelligentsia québécoise au cours des années 60, mais qui est encore la dent dure en fait sur une soi-disant culture de référence que serait la culture française. Elle est de référence pour la question des racines, mais la question de la supériorité, par contre, mérite évidemment d'être ardemment moquée, ce dont on ne s'empêche guère dans notre société actuelle au Québec, mais qui, dans le cadre très très articulé, très intelligent d'un film réalisé par l'Office national du film, laisse plutôt pantois. C'est un film assez éloquent et très, très ludique. Donc, cinéma relativement joyeux que celui de Jutras, et en particulier dans le deuxième, sur lequel j'insiste simplement une minute, malheureusement, j'aimerais en parler plus longuement, mais ça s'appelle Cinéboom. C'est un film qui a été... qui dure environ une heure, qui a été réalisé par Jutras et Robert Russell. C'est un film en anglais tourné pour la CBC au milieu des années 60 et qui fait un portrait, en fait, des cinéastes québécois de l'époque. Donc, tous ces cinéastes-là vont intervenir au cours du film. Évidemment, Jutras joue le rôle du passeur. Donc, c'est un peu il est présenté comme la figure de proue du cinéaste du cinéma québécois à l'époque. C'est lui qui fait la narration et fait le pont entre tous les intervenants. Il parle avec beaucoup de spontanéité et de franchise dans un anglais impeccable, avec une part d'ironie aussi par rapport aux enjeux culturels canadiens dans lesquels s'inscrit ce film, évidemment, parce que c'était finalement un panorama qu'on faisait au public anglophone du cinéma québécois de l'époque, qui était pour une grande part le cinéma national au-delà des frontières du Québec, si on veut. Le cinéma canadien était largement... d'un point de vue international, reconnu parce qu'il y avait une spécificité cinématographique qui s'exprimait surtout au Québec. Ce qui est très prenant et frappant dans ce film, c'est à quel point l'affirmation de la spécificité culturelle québécoise est centrale pour la reconnaissance du cinéma et des créateurs d'ici. C'est quelque chose qui est très précis, en fait, dans la tête des cinéastes à l'époque et qui échappe un peu, je dirais, au discours des cinéastes actuels au Québec. Alors que ce nationalisme-là, si on veut, n'est pas un nationalisme revanchard ou porté par des slogans, des revendications. C'est plutôt une évidence. Il s'agit pour Jutras, Gilles Groulx, Bro, qui intervient aussi dans le film, Patrie, dont j'ai parlé un peu à l'instant, qui a fait des films seulement dans les années 60, ou encore Guy Côté, qui est le fondateur de la Cinémathèque québécoise. Pour ces cinéastes-là, il s'agit surtout de mettre de l'avant, finalement, une différence culturelle qui doit avoir une esthétique cinématographique forte et qui ne se compare à aucune autre. Mais, donc, ça appelle finalement la question du style, la question de l'esthétique, ce qui met finalement le niveau d'exigence cinématographique très élevé, beaucoup plus élevé que généralement ce qu'on entend lorsqu'on parle de cinéma québécois en se pétant les bretelles ces années-ci. Donc, une vision qui va beaucoup plus loin que la simple franche camaraderie et l'envie de s'amuser dans une cour d'école en se pétant les bretelles parce qu'on a une grosse caméra puis qu'on est capable de faire des films avec. Voilà, je finis ça sur un ton un peu cavalier. Je ne pouvais pas en dire plus compte tenu du temps qui m'est incombé. On va passer à Rétrogardiste dans quelques instants. Bruit de froissement de feuilles. Ici Guillaume Lafleur, on se parle la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. À bientôt. Thank you.